bonnes feuilles. 40 romans de la rentrée littéraire, lus par leur auteur. Aujourd'hui, Place Colette de Nathalie Reims.
Le texte que j'ai choisi aujourd'hui, parce que c'était bien pour ce jour, c'est Les femmes savantes de Molière. Quoi ? Le beau nom de fille est un titre, ma sœur, dont vous voulez quitter la charmante douceur ? Et de vous marier, vous osez faire fête ? Ce vulgaire dessein vous peut monter en tête. C'est Les femmes savantes de Molière. Je trouve que cette pièce particulièrement est passionnante parce que je trouve qu'on est toutes soit des Armandes, soit des Henriettes. J'aurais adoré être Armande, mais malheureusement, il m'a manqué bien des choses. Finalement, à l'arrivée, je crois que c'est quand même Henriette la plus sage. Et c'est un texte fondateur pour moi, comme la plupart des textes de Molière, dans ma passion pour la langue française, dans ma passion pour la littérature, pour la beauté de cette langue extraordinaire qui va m'amener des années après à prendre le risque d'écrire.
Nathalie Reims, on va vous entendre lire votre nouveau roman immédiatement.
Je savais depuis longtemps par où cela devait commencer, mais j'ignorais quand viendrait le moment d'écrire ce chapitre de ma vie. J'imaginais le jour où, malgré ma gêne, je n'aurais plus le choix. Assigné à regarder en face le déroulement des événements, il me faudrait les raconter, les exposer au grand jour. À force de se bousculer dans mon esprit, les fictions et les romans vrais, tout a fini par se ressembler. Plus j'avance dans ma vie et dans l'écriture, plus j'ai du mal à distinguer la réalité sous les décombres des simulacres de mon existence. C'est particulièrement évident dès qu'il s'agit de mon corps ou de mes désirs. Pourquoi sont-ils l'un comme l'autre aussi absents de ce que je suis capable d'exprimer ? Je me suis habituée à vivre au milieu de cet état fuyant de ma mémoire, au point d'être parfois surprise de me découvrir, dissimulée derrière un personnage, croyant l'avoir inventé, persuadée qu'il était le fruit de mon imagination. Je me sens prête aujourd'hui à décrire ce qui s'est passé, à rester le nez collé à la vitre, le temps nécessaire, à observer ce qui était resté flou durant tant d'années. Je n'ai plus peur, ni de l'opinion des gens à mon sujet, ni surtout de ce que je pourrais découvrir alors que c'était oublié. Tant qu'il s'agit de souvenirs restés enfermés, que j'ai de la peine à reconnaître, ils ne sont jamais suffisamment précis pour refaire surface dans un livre. Sans le besoin ou l'alibi d'avoir à inscrire sur le papier ce qui a eu lieu, lorsque je tente de me remémorer des scènes, des sensations éprouvées, des choses vues ou qui me sont arrivées, rien ne vient. Sans la présence du stylo au bout de mes doigts, ne m'apparaît qu'un tourbillon indistinct dans lequel j'ai l'impression d'être engloutie. J'ai cru qu'il s'agissait de honte ou de pudeur peut-être, même d'une tentative de censure. C'était certainement un peu tout ça, mais j'ai fini par comprendre que c'était aussi une façon de préserver ce qui me semble le plus précieux. Comment ne pas douter, lorsqu'on devient adulte, des émotions de l'enfant, de la jeune fille que l'on croyait être ? Pour y parvenir, il faudrait pouvoir couper le lien, lui rendre sa liberté, l'abandonner à son innocence devenue inaccessible avec les années. Impossible. Empruntant un autre chemin, je vais essayer de retrouver cette voix qui était la mienne avant qu'elle ne se transforme, cette parole dont j'ai l'impression fausse, qu'elle n'a pas changé, qu'elle est toujours la même. Au moment où j'entendrai cette musique à travers les mots, je devinerai que je suis de retour telle que j'étais. Une fois débarrassée de la gangue protectrice des souvenirs incertains, je saurai clairement comment tout a commencé. C'était un été, celui de mes 12 ans. En ce début des années 70, je passais comme toujours le mois d'août en Corse, à Saint-Florent. Nous habitions une bergerie acquise par mon père 20 ans plus tôt. Elle était blottie au cœur de la baie, entre le Cap Corse et le désert des Agriates où s'aventuraient les randonneurs qui avaient quitté le chemin des douaniers. Avec le temps, le maquis clairsemé avait laissé place à une végétation luxuriante où les teintes roses des lauriers et des massifs d'hortensias avaient triomphé de l'aridité du sol. Les lauzes recouvraient désormais la terre humide du bord de mer. De ma chambre, j'apercevais au loin le port, avec quelques voiliers ancrés à quai, et le village, surplombé par une imposante citadelle génoise. Un vent très doux et régulier, venu des collines qui entouraient la baie, enveloppait les corps tel une caresse et les tenait en suspension dans l'air, comme la mer, lorsqu'elle était calme, les faisait flotter, immobiles. Je passais des heures allongées à contempler ce paysage, à lire. Tout prétexte était bon pour échapper à la flopée d'invités qui débarquaient durant 2 ou 3 jours, une semaine parfois, perturbant ce paradis voué au silence. Avec eux, il se transformait instantanément en salon parisien, sombrant dans les mondanités et les jeux d'influence. Il y avait 2 maisons. La nôtre, dite des enfants, avait été construite l'année de ma naissance. Mon frère, ma sœur et moi y avions chacun une chambre. Les 2 bâtiments identiques, construits en pierre sèche du pays, étaient séparés par un petit chemin en dalles d'ardoise asymétrique. Pour un enfant, la distance séparant l'un de l'autre était interminable, alors qu'aujourd'hui je vois bien qu'une 10 enjambées suffisent pour la parcourir. Le matin, chacun se levait à sa guise. Le petit déjeuner se prenait sur la terrasse des parents à l'ombre des canisses, recouvertes de lierre et de campanules qui s'enroulaient autour des rondins de châtaigniers flottés. Sur la grande table de pierre, il y avait plusieurs sortes de thé, des pots de café, du pain frais ou grillé, du brucio, des confitures de figues ou d'abricots du jardin, du jus de fruits fraîchement pressé. L'ensemble générait une langueur qui ne se prêtait à rien de brusque. Dès que j'ouvrais un œil, je sortais discrètement de ma chambre et m'aventurais à petits pas, essayant d'apercevoir ceux qui, s'étant levés tôt, étaient déjà installés autour de la table. La plupart du temps, à cette seule vision, c'était au-dessus de mes forces. Je rebroussais chemin, préférant me recoucher le ventre vide. J'évitais ainsi tous ces adultes qui me faisaient peur. Ils ne parlaient au saut du lit que de littérature, de politique ou de sexe, sans jamais, ne fût-ce qu'un instant, remarquer que j'étais là. Sauf pour me dire que mon short en jean était trop court ou déchiré, que mes cheveux étaient trop longs ou que je mangeais mal. La littérature, la politique et le sexe, ces sujets dessinaient une frontière invisible mais infranchissable avec le monde des grands. C'était surtout le fait d'en parler publiquement qui me semblait incongru. Pour moi, les 3 devaient rester cachés, surtout le dernier, et les 2 autres, trop complexes, n'auraient su faire l'objet de conversations au réveil. Mon frère et ma sœur étaient passés de l'autre côté. Ils n'étaient plus à mes yeux mais semblables et avaient rompu définitivement avec l'enfance. Ils emmenaient toujours des amis de leur âge. Je n'avais pas grand-chose à leur dire. J'aimais mieux rester enfermée dans ma solitude rêveuse qui me protégeait de la violence maladroite propre à l'adolescence que je sentais chez eux. Par ailleurs, je ne me voyais pas demander à une copine d'école de m'accompagner dans cet endroit. L'angoisse d'avoir à parler à quelqu'un qui aurait partagé ma chambre était un obstacle insurmontable. Si je me sentais loin des adultes, j'étais comme une étrangère avec les camarades de mon âge. Ma mère avait souhaité nous inscrire à l'école communale, puis au lycée. De toute façon, je détestais les études et, à choisir, je préférais encore être dans le public que dans ces boîtes payantes où l'on croise tout ce que j'ai toujours fui. Ces bourgeois ramenards, ce bétail pour les rallyes, ces soirées pour gens du même milieu à la recherche de beaux partis. J'étais seule dans ma chambre et j'étais bien. Je dévorais des livres empruntés dans la bibliothèque de mon père, Balzac ou Zola. Je ne ratais jamais un épisode de La Dame de Montsoreau à la télévision. Le rôle principal masculin était joué par Nicolas Silberg. C'était sûr, il me faisait bien plus fantasmer que Paul Morand ou Michel Mor, dont les moustaches restaient couvertes de miettes de pain grillé jusqu'à l'heure du déjeuner, repas que nous prenions tous ensemble. C'était le moment de bonne conscience de nos parents, qui pensaient ainsi consacrer un peu de temps à leur progéniture. Toujours assis en bout de table, nous n'avions guère le droit de parler. Cela m'arrangeait, car je n'avais rien à dire. Pourtant, une chose me plaisait, tendre l'oreille, écouter les discussions, et ça depuis l'enfance. Mon but aurait été, dans ces moments-là, de rétrécir, de devenir si minuscule que plus personne ne se serait aperçu de ma présence. Je compris que je serais plutôt voyeur qu'acteur de ma propre vie. Je ne savais pas quoi faire de cette vie. Elle me pesait, autant que mon corps m'encombrait. Je sortais à peine d'une maladie qui m'avait cloué sur un lit durant 3 ans. Un mauvais diagnostic posé au départ, des traitements qui n'avaient servi à rien, qu'à déformer ma silhouette et mes traits à coups d'antidouleur et de cortisone. Mon existence était rythmée par les allers-retours entre notre appartement et l'hôpital des enfants malades. Un carcan de plâtre me prenait depuis les coudes jusqu'au bas du dos, ne laissant que les bras libres de bouger et offrant aux escarres la possibilité de s'immiscer à la base de ma colonne vertébrale. Face à l'impuissance de la faculté, ma mère eut le loisir de consulter une foule de psychiatres. Elle les adorait. Elle en était folle. En attendant, à propos de la folie, elle préférait opter pour cette idée qui la rassurait. Puisque aucun des grands spécialistes consultés ne trouvait la cause de mon mal mystérieux, peut-être, se disait-elle, était-ce parce que sa petite dernière était folle, tout bêtement. J'eus de la chance. Après d'innombrables entretiens et conseils de famille, qu'il décide en cœur qu'il n'en était rien, il fallait préserver et trouver des approches plus originales de la maladie qui m'avait épinglé, tel un papillon au fond d'une boîte. J'entrevis enfin la lumière. Un professeur anglais, un peu plus malin que les autres, fit l'hypothèse qu'il pouvait s'agir d'un ostéome de l'os-iliaque. À cette époque de grande révolution des esprits et des mœurs, il n'y avait pas encore de scanner ni d'IRM. La tumeur osseuse était si bien cachée qu'elle avait échappé à la tomographie. Il décida de m'opérer, il était de mes 12 ans, fut le premier où je me sentis revivre, même si mon corps était encore lourd à porter. Tout se mettait à chanter autour de moi. Mes sensations s'accordaient avec cette période de couleurs acidulées qui exprimait la libération d'une génération avec laquelle j'apprenais à vibrer. J'étais en train de connaître une véritable résurrection. Avec les musiques et les paroles des chansons qui déferlaient dans ma tête, ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Je sortais doucement de ma coquille de noix et c'était bien. Pourtant, après plusieurs mois de rééducation, pour retrouver la marche et l'équilibre, les séquelles de tous ces médicaments me laissèrent enrobée, sans un muscle, le teint pâle, les traits épaissis par la douleur. Le soleil brutal de ce mois d'août accentuait mes complexes, soulignait mes disgrâces. Mais à qui le dire? À qui confier ce mal-être alors que tous me manifestaient leur soulagement après cette guérison miraculeuse? Pas question de me plaindre. Tout faire pour échapper à la plage au regard des autres, à un éventuel maillot de bain. Et quand ma mère me disait tous les jours que me baigner me ferait du bien, je me sentais agressée comme mordue par un chien. Mon unique plaisir était d'accompagner Victoire, la gardienne, au village et pendant qu'elle faisait les courses, de m'arrêter à la maison de la presse chez les Scotto pour acheter des magazines de toutes sortes, des bonbons multicolores que je ramassais avec une petite pelle avant de les enfourner dans du papier craft. Certains de ces journaux étaient interdits aux mineurs. C'étaient de petites bandes dessinées de format carré noir et blanc au titre évocateur, Jacula ou Spermula. Au moment de me rendre à la caisse, la honte me faisait baisser la tête. Je l'ai glissée entre Pif Gadget et Pim Pam Poum. Ça passait sans problème. Soit Madame Scotto ne regardait pas en détail ce qu'elle vendait, soit elle fermait les yeux. Je préférais pencher pour la seconde hypothèse. En possession de ces trésors d'érotisme, je remontais vite à la bergerie, m'isolais dans ma chambre, fermant les volets pour me protéger du soleil qui, à 7 heures de la matinée, brûlait la peau. Ces minutes volées avant de passer à table étaient des moments de grâce. Mon père restait dans son bureau, écrivant sans se soucier du reste pendant que les autres entassés dans le bateau étaient partis en mer pour nager dans une crique ou barboter un peu plus loin dans les eaux turquoises de la plage de Saletsch. Je voulais que la maladie prenne une place très courte au début du roman pour comprendre pourquoi cette jeune fille de 12 ans se sent d'abord hors de son milieu, hors de l'école, hors de sa classe. Elle est ni bien avec les gens de la génération de ses parents et ce milieu bourgeois, parce qu'elle a passé 3 ans à l'hôpital et que là, elle a vu d'autres choses que les dîners en ville. Elle a compris pas mal de choses, puisque la seule façon qu'elle avait de communiquer avec son père, c'est les livres qu'il lui amenait le dimanche et qui reprenait le dimanche et il parlait de livres. Moi, je me souviens que mon premier livre, à 12 ans, que mon père m'a amené à l'hôpital, c'était « Les confessions d'un enfant du siècle ». Donc, ça forme tout de suite. Hein. La comtesse de Ségur, c'était fini depuis longtemps. Donc, ça, c'était bien. Et ce double carcan fait que le carcan du silence plus le carcan de la maladie, eh ben, c'est la mise en place tout de suite pour comprendre que cette jeune fille va vivre des choses... D'abord, va prendre son destin en main. Très tôt, très jeune, parce qu'elle est très mûre, et va décider que pour s'en sortir, c'est la conquête. Alors ça va être la conquête d'un homme et la conquête de sa passion pour le théâtre, qui à travers le fait de tomber amoureux d'un acteur, qui est sociétaire de la Comédie Française, qu'elle va rencontrer l'été de ses 12 ans à Saint-Florent, va l'amener à l'amour, au sexe et au théâtre. Cette narratrice, on la retrouve dans « Laissez les cendres s'envoler », Donc là, on la retrouve entre l'âge de 12 ans et l'âge de 17 ans. Peut-être que c'est un peu mon Antoine Doinel. Je crois qu'on a tous un Antoine Doinel. Alors au début, j'ai écrit que sur les gens morts. Ce qui est toujours très pratique parce qu'ils ne sont pas là pour vous faire des reproches, ni pour vous dire « mais non, j'aurais pas dit les choses comme ça ». Et puis petit à petit, comme en forgeant, on devient forgeron, et comme dit Monsieur Hollande, on a tous une boîte à outils, ben moi j'en ai une aussi de boîte à outils. Et dans cette boîte à outils, ben plus j'avance, plus j'ai d'outils. Donc dans ces outils, parce que moi je considère que les écrivains sont des artisans, hein, parce que les artistes, il y a un mot, enfin il n'y a que la postérité qui reconnaît les artistes. Donc moi je suis un artisan. Donc chaque année, mes outils me permettent, on va dire, d'agrandir mon champ de fabrication. Je laisse tout filer, j'ai aucune censure. Et je préfère le roman vrai à l'autofiction. Moi, j'ai un problème avec l'autofiction. Mettons que c'est du roman vrai, mais que, de toute façon, à partir du moment où on écrit, où moi j'écris, et puis je pense que les autres écrivains, c'est pareil, ça devient du roman, parce que l'écriture transfigure le réel, de toute façon. Et puis, je me suis aperçue que par le carcan... dont je parle, qui n'est pas qu'un carcan de plate, mais qui a un carcan d'éducation, un carcan bourgeois, un carcan qui vous assigne au silence. Parce que si jamais on parle, alors il y a tellement de romans que je pourrais écrire que je m'interdis encore d'écrire. Qui seraient sans conteste sûrement des livres qui se vendraient très bien, mais comme quoi je me mets encore des barrières. L'âge auquel j'ai commencé à écrire, c'est déjà 39 ans, hein, c'est pas très précoce. Et avec les années, j'ai pris plus de liberté, j'ai commencé à insérer des vivants, j'ai commencé à avoir moins peur. Dans « Laisser les cendres s'envoler », j'ai attaqué de front mon ancien beau-père, qui est toujours vivant, qui a d'ailleurs écrit à toutes les dames du Fémina une lettre abominable quand j'étais sur la liste du Fémina. Donc j'ai plus peur de ce genre de choses. Et souvent j'écris en musique avec un casque vissé sur les oreilles, d'abord pour me couper du reste, et puis souvent parce que le rythme me sert beaucoup. Alors évidemment ça change en fonction de ce que j'ai envie d'écrire. Et quand j'ai terminé, je me relis à voix haute et je vois si ça sonne juste. Exactement comme une partition de musique, et s'il y a une fausse note, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, qui accroche. Mais la musique est déterminante, et forcément la musique baroque bien sûr, et puis Lully beaucoup... malheureusement, le bourgeois gentilhomme est rarement joué dans sa version complète. C'est une sorte de pièce musicale, et on a coupé au fur et à mesure tous les grands passages chantés, parce que dans sa totalité, la pièce est quand même très chantée. C'était à la mode, et maintenant c'est aussi à la mode puisqu'on chante beaucoup dans les films. Puisque je viens de voir La Reine des Neiges que je n'avais jamais vue, j'ai découvert que c'était chanté tout le temps. Donc voilà, c'est la Reine des Neiges de l'époque. Voilà. En tout cas, c'est ma Reine des Neiges à moi.
Merci beaucoup, Nathalie Reims.
C'était Nathalie Reims, qui présentait son roman Place Colette, qui paraîtra aux éditions Léo Cher. Les Bonnes Feuilles, Sandrine Trenner, Anne-Vanessa Prévost, Soma Nina, Jean Frédérix.